va commencer Bezrat Hashem notre troisième cours sur le chapitre 33, troisième ou quatrième cours. On a expliqué dans ce chapitre longuement. Monsieur Benitaï nous le rappellera certainement.
Oui. Alors je vais vous rappeler.
L'histoire des étincelles.
Les étincelles. Dieu, il est partout.
Voilà.
Hein? Et il est, et les étincelles, elles sont éparpillées partout, partout dans le monde. Et quand on fait une bracha, une bénédiction, ce sont des étincelles qui montent vers le ciel, vers Hachem. Et surtout, si c'est quelqu'un qui n'est pas très développé dans la Torah, Dieu, il est beaucoup plus content que si c'est un grand haram. Bon, allez, non.
Combien il y avait d'étincelles?
Alors maintenant, après, il y a l'affaire, on a parlé aussi du Mashiach. Et selon le Rambam, Mashiach, quand il va venir, ce sont nos âmes seulement qui vont s'élever, et pas l'enveloppe qui est notre corps. Par contre, les grands hachamim, ils ont dit, ce n'est pas la neshama, mais c'est le corps avec la neshama. Et j'espère que ça va être ça, hein, parce que franchement... Hein,
tu veux garder ton corps, toi?
Ah ouais, bah oui.
Bon. On a un cours de M. Benitaï, là. C'est pour Imfé, Vena Fokhou, tu vois.
Pour Imblim Glob.
Alors on y va. Nous sommes Bezrat Hashem dans le troisième cours du chapitre 33. On explique, comme M. Benita a bien répété, le fait que un juif, il doit s'habituer à voir Dieu partout. Pas seulement à la synagogue, même dans sa vie de tous les jours. Qu'il soit à la maison, qu'il soit au travail, qu'il soit dans le métro, qu'il soit dehors, qu'il soit en vacances. Et que c'est pas incompatible. Dieu n'est pas présent seulement dans nos mitzvot. Dieu est présent partout. Et d'ailleurs, ça, on le voit beaucoup dans l'histoire de Pourim. Dans l'histoire de Pourim, on voit clairement comment Dieu se cache. Vous remarquerez quand vous lirez la Megillah, que dans toute la Megillah, le nom de Dieu n'est pas inscrit une seule fois. Et celui qui veut croire que l'histoire de Pourim est une histoire géopolitique, bah oui, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un parti politique, extrémiste, extrême gauche, il voulait nous tuer, on avait la reine, elle était juive, elle nous a sauvés. C'est tout. C'est simple. Qu'est-ce qu'on a? C'est très simple.
Oui.
Où est le problème? Il y avait un Le Pen, il voulait, etc. Bon, on avait un grand ministre, la reine en l'occurrence. Seulement, pourtant, quand on lit l'histoire, on voit clairement comment Kadosh Baruch Hu se cache derrière. Et ça, c'est l'éducation d'un juif. Un juif doit être éduqué, il doit s'éduquer à chercher Dieu et trouver Dieu partout. On avait expliqué que c'était même une des bases de la Emouna. Une des choses qu'on enseigne à nos enfants, dès le plus jeune âge, de trouver Dieu partout. Alors, il dit maintenant, Véalzé, sur cela, page 95, on reprend quelques lignes qu'on a fait la semaine dernière. Tiknou, les chamim ont instauré, l'iten shevar vodaya lishmoit barab chol boker. C'est pour cela que les chamim ont instauré, tous les matins, de commencer la journée. Comment un juif commence sa journée?
Modé Ani.
Voilà. C'est quoi Modé Ani? Il commence sa journée en disant merci à Kadosh Baruch Hu. Il commence pas sa journée en disant « Oh, je suis fatigué, oh, j'en ai marre, oh, laissez-moi tranquille. » Non. Le juif, il est content. Il est content de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il dit « Dieu est tellement grand, et moi, je suis tellement petit. Mais comment c'est possible qu'il me demande un service, que moi, je vais lui rendre service? C'est pas possible, c'est trop extraordinaire. » On a développé ça longuement la semaine dernière. C'est pour cela, avec le roi qui demande... à une personne qui traîne dans la rue et qui l'amène chez lui à la maison, dans sa chambre, etc. C'est extraordinaire. C'est une proximité extraordinaire. Et ben, c'est la même chose avec le Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que tous les jours, on commence la journée en disant, vous pouvez le dire en français, remercier à Kadosh Baruch Hu, Ashrenu Matov Chelkenu. Combien nous sommes heureux, combien notre part est belle, combien on est content. Combien on est content d'abord que dans le monde, il y a beaucoup de créatures. Il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des rats, il y a des loups, il y a des chiens, et il y a l'être humain. Et nous, on fait partie des êtres humains. Alors, dans les êtres humains, il y a beaucoup d'espèces aussi. Il y a les êtres humains qui n'ont que le titre être humain, mais à part ça, c'est plutôt les animaux. Il y a des gens qui sont civilisés, mais qui sont pas religieux. Il y a des gens qui sont civilisés et religieux, mais qui sont dans des religions tordues. D'accord. Il y a des gens qui sont dans des religions qui sont moins tordues, qui sont quand même monothéistes, mais ils sont pas proches de Dieu comme nous. Et nous, on est le Ham Israël. C'est-à-dire déjà regardez que déjà comment on réduit. C'est-à-dire qu'il y avait les insectes, on arrivait à l'être humain, d'accord. Et à la fin, il reste plus que quelques personnes. Et avec ça, dans le Ham Israël, combien de personnes sont conscientes dans le Ham Israël de l'héritage qu'on a aujourd'hui? Beaucoup de gens qui sont à côté de la plaque. Nous, on va au Hachem, on se lève, on a la chance de venir en cours de Tania, de venir, de comprendre qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, où on va. Mais ça, à Rabotay, juste pour ça, il faudrait danser. On devrait tout arrêter maintenant, on devrait danser
exactement,
maintenant.
Exactement, oui. Pourquoi on fait pas?
Qu'est-ce qu'on est là maintenant? On est là ce soir, on est.
On y va?
D'accord.
Pourquoi on le fait pas?
Hein? Oui.
Mais ce privilège, il n'est pas donné seulement à nous, les autres aussi, ils ont le même privilège que nous, puisqu'ils sont là.
Oui, ils sont là, mais il y a des gens qui ont un cadeau qui ne s'en rendent pas compte. Nous, on a un cadeau et on s'en rend compte.
On n'est pas que nous, non.
Pas que nous qui?
Il n'y a pas que nous qui avons ce cadeau.
À part les Juifs, vous voulez dire?
Oui.
Le cadeau. Le cadeau posé là.
Là, à part ça. Tout le monde se lève, hein, le matin, tout le monde y dort le soir, tout le monde travaille.
Oui, non, mais c'est pas de ça que je parle. Là, je parle du cadeau, de la chance d'avoir un sens dans notre vie. Le sens que vous avez dans votre vie, un goy ne l'a pas. C'est clair. Ça, c'est clair ce que je vous dis. Il va se trouver d'autres sens. Alors, t'as celui qui se dit non-croyant. C'est celui qui se dit croyant, mais qui va croire en des bêtises. C'est celui qui va être monothéiste, mais qui va pas avoir un système construit comme la Torah. On a la chance d'avoir un système de proximité avec quelqu'un de genre comme la Torah. Et sur ça, on devrait être heureux. On est heureux. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Un juif, il doit être heureux, il doit être Bessimra. Pourquoi il doit être Bessimra? Pas parce qu'il a gagné 100 millions. Il va gagner 100 millions, c'est pas un problème ça. D'accord? Un juif... un juif, il est heureux parce qu'il est juif. D'accord? Il y a une chanson d'un chanteur israélien qui a fait Teshuva. Il a une chanson qui était, voilà, ça, une fois qu'il a fait Teshuva, il a composé une très très belle chanson, très connue en Israël. Kamatov Liot Yehudi. Combien c'est bon d'être juif, d'accord? Kamatov Liot Yehudi, d'accord? Avec un peu de drogue, etc. Bon, et c'est même ça. Kamatov, combien c'est bien d'être juif? Combien c'est, on a la chance, Ashreinu Matafrekenu, Umayafa Yerushatenu. Et là, il pose la question à Michael, il dit, mais quand les 100 millions? On veut les 100 millions. Kemo, chez Adam, Saz, Vesamer, Biyerush, Ashinaflalo, On, Attaque, Chulamalbo. De la même façon qu'un homme se réjouirait d'une fortune qu'il recevrait sans se fatiguer. De la même façon, Ken, Veyotamiken, Le Enket. De la même façon, et encore plus que ça, à l'infini. Yesh, la nous lisse mort, nous devons nous réjouir à l'Irushatenu, Shinchilunu, Avotenu. Un juif, sans qu'il fasse quoi que ce soit, sans qu'il soit tzaddik, sans qu'il naisse dans une famille particulière, il a déjà le jackpot. Tu descends d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est fini, t'as déjà le jackpot. T'as déjà ça en toi de série. T'as déjà cette capacité de ressentir un Kadosh Baruch Hu. Après, c'est ton problème. Si tu veux y penser ou pas y penser, c'est ton problème. Mais tu as ça en toi. Tu as ça en toi, cette capacité de ressentir une proximité avec le Kadosh Baruch Hu. Sachez que c'est une faculté qui est unique. Que personne n'a, même les anges n'ont pas cette capacité. C'est unique. Sur toutes les créatures qu'il y a dans le monde, il y a très peu de personnes qui l'ont. D'abord, il n'y a que les êtres humains, et dans les êtres humains, il n'y a que certaines personnes, happy few, comme tu as dit. On est VIP. C'est à la mode aujourd'hui, ils sont en vente privée, etc. On fait partie des gens, on est sélectionnés. Quand tu réfléchis, tu dis, mais attends, mais pourquoi tu m'as choisi moi plus qu'un autre? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'un autre? Qu'est-ce que j'ai de plus que Jean-Claude? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Christian, hein?
Même De Gaulle l'a reconnu.
Qu'est-ce que j'ai de plus? Et là, c'est là que je comprends qu'en vérité, si Akadosh Baruch Hu m'a choisi, c'est pas forcément pour mes qualités. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même un nourrisson, même un juif rachat, Dieu l'a quand même choisi. Dieu nous a choisi. C'est pas quelque chose de logique. Et ça, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais attends, mais c'est extraordinaire. Dieu nous a choisi, et il est patient. Et même quand on fait des bêtises, il dit, bah bon, allez, laisse tomber ce produit, il marche pas, je le change, je mets un autre, un bon, qui marche bien. Non! Il a une bouteille qui est là, qui rit dans tous les sens. Il dit, non, t'inquiète pas, elle va marcher. Mais elle marche pas, ta bouteille. Non. Akadosh Baruch Hu nous fait confiance plus que nous. C'est-à-dire encore plus que moi, j'ai confiance en moi-même, Dieu, il a confiance en moi. C'est extraordinaire. Juste pour ça, on devrait être Ashrei Noteh Frekenu. Vous savez, dans le Guérat Tchouvel, il explique comment tous les jours, trois fois par jour, on demande à Akadosh Baruch Hu, Slach Lanu. Pardonne-nous. C'est-à-dire qu'entre une amida et une autre, il peut refauter. Imaginez le nombre de fois qu'on demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Je sais même plus si nous, on a confiance en nous-mêmes. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, j'ai confiance en toi, tu vas réussir, tu vas voir. T'as pas réussi ce matin, tu vas réussir cet après-midi. T'as pas réussi cet après-midi, tu vas réussir ce soir. Donc juste pour ça, on devrait être heureux et dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et ça, ce qu'il dit ici, ou yichud Hashem amiti asher afilu ba'aretz mitachat enod milvado vezoi dirat betachmu. Voilà, on s'arrête sur le sujet la semaine dernière. C'est ça, construire une demeure pour Kadosh Baruch Hu en bas. On avait dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé ce monde? Parce qu'il veut qu'on lui construise une demeure ici-bas. Vous vous rappelez qu'on a dit ça? Comment on construit une demeure à Kadosh Baruch Hu? On construit pas une demeure à Kadosh Baruch Hu en construisant des synagogues. Les gens y pensent, j'ai construit la synagogue, je sais que j'ai ma plaque, hein, il y a les plaques qui vont arriver maintenant, je sais que j'ai ma plaque, il y a mon nom, voilà, je suis là, j'ai mon nom.
Voilà, j'ai un scoop là,
D'accord. Ça, les plaques, vous les laissez pour les pierres tombales. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est un peu pour rime, hein. D'accord? Un juif, il est pas un juif parce qu'il a une synagogue qu'il a construite. C'est très important de construire une synagogue. Un juif, il est juif parce qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu dans tout son être. Il n'est pas juif que à la synagogue, il est juif partout. Il est juif quand il marche, quand il mange, quand il dort, quand il va en vacances, quand il est à la maison, partout. Il est juif partout. Et ça, c'est une simcha extraordinaire. Enrod milevado. Il n'y a rien à part à Kadosh Baruch Hu. Exactement comme David, même aux toilettes. Vous savez qu'il y a des halachot dans le Shulchan Aruch pour les toilettes? C'est fou, ça. Je ne sais pas s'il y a une autre religion comme ça.
Pour la
billette
de
près. Oui, on les étudie. Hein. Ceux qui viennent au cours du Talmud, hein, au cours de Gemara qu'on fait dimanche, très explicite. Très explicite. D'accord ? Il ne faut pas être plus clair. Hein. Il y en a qui ont pris du temps pour s'en remettre. Alors.
C'est dur.
Et pourtant, voilà, parce que c'est la halakha. On te parle de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Ça veut dire que Dieu, il est présent même aux toilettes. Même aux toilettes, c'est une façon, comment je dois me déshabiller, comment je fais, etc. Parce que Dieu est partout. Là, c'est le pshat. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre une Gemara qui dit la chose suivante. La Gemara nous raconte que nous avons reçu 613 mitzvot. On sait tous que quand on compte les mitzvot, il y en a 613. On va lire une Gemara ensemble. Désolé, je vais raboter nous. Vous allez voir, c'est quelque chose de très particulier. En bas de la page 95. Zéou, Shamour, Rabotenu, Zichonam, Livracha. Maintenant qu'on a compris qu'à Kadosh Baruch Hu, on doit se travailler sur le fait que Dieu est présent partout, et que quand je comprends que Dieu est présent partout, ça me procure une simra extraordinaire, au point que j'ai envie de danser.
Magnifique.
Et que Dieu est en moi. Je construis un Mikdash en moi, pas à la synagogue. La synagogue est en moi. Maintenant, on va comprendre pourquoi ce que dit la Gemara. La Gemara dit, Tar, Yam, Mitzvot, Nitnu, Le Israël. 613 mitzvot ont été donnés au peuple juif. Bah, Habakouk est venu, le prophète Habakouk, ve'emid analachat. Et il les a résumés en une seule. Quelle mitzvah? Intéressant, ça. 613, il a réduit à une. Il a simplifié. Ve'tzadik, c'est quoi la mitzvah qu'il a réduit? Quelle mitzvah il a réduit? Ve'tzadik, le tzadik. Quand on dit le tzadik ici, on parle du juif, parce qu'il est écrit « Ve'amer kulam tzadikim », j'aime tous les tzadikim. « Be'emunato yichye » et vivra par sa emuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Habakouk? Ça veut dire, attention, parce qu'on peut, on peut très mal comprendre ce qu'a dit Habakouk, c'est pour ça qu'il est très important de bien écouter, c'est la suite. Si je traduis littéralement la Gemara, ça peut me donner une approche un petit peu kato, excusez-moi de la comparaison, l'avdil. De dire, ben, il y avait 613 mitzvot, et on a dit, Habakouk est venu, il a dit, écoutez, ce qui compte, c'est le cœur. Non, c'est ça. C'est vrai, dis-moi là. Après, quand t'as un bon cœur, c'est le plus important. D'accord? Après, les détails, t'as fait, pas fait, etc. Dieu choisira les siens.
C'est très clair.
D'accord? Non, c'est pas de Pirkei Avot.
Non, je parle de...
Ça reste très vague. Ouais. Ça reste... Ah non, c'est pas de Pirkei Avot.
Il y avait pas...
Non, ça c'est un Agmara Makot. Et donc, on aurait pu penser que ce que Habakouk veut dire. Chas v'shalom. Habakouk n'est pas en train de dire, il y a 613 mitzvot, et moi je l'ai réduit à une seule mitzvah, c'est le cœur, c'est la compassion, etc. Bon, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que dit Habakouk. Habakouk veut pas nous exempter des 612 autres mitzvot. Habakouk veut nous expliquer que si on arrive à accomplir la mitzvah de la Emouna, automatiquement les autres iront plus facilement. C'est-à-dire que Habakouk est arrivé dans une génération dans laquelle les gens avaient du mal à faire les mitzvot. À l'époque de Moshe Rabbeinu, les juifs faisaient les mitzvot avec la soumission. Ils réfléchissaient pas au salaire des mitzvot. Quand on demandait à un juif, fais une mitzvah, il la faisait point barre. Mais après, avec le temps, les juifs ont commencé à poser des questions. Ils ont dit, mais attends, tu me dis de faire ça, comme ça j'aurai ça, mais j'ai pas vu exactement comment ça fonctionne, etc. Alors, progressivement, comme raconte là-bas la Gemara, les prophètes sont venus et pour encourager le peuple, ils leur ont donné des mitzvot qui leur parlaient. Parce qu'une fois qu'une personne est intéressée, quand tu vois une personne qui veut lui vendre un produit, tu vois qu'il ne veut pas acheter le produit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver le petit détail dans le produit qui l'intéresse. Et par ce détail, tu vas lui faire prendre tout le produit. C'est pas de la manipulation. C'est que, c'est comme ça. Pour attirer quelqu'un qui ne veut pas le produit, tu vas l'attirer par quelque chose qui l'intéresse. Et par ça, tu vas l'intéresser à tout le reste. Exactement ce qu'a fait Habakkuk. Alors, on a eu plusieurs autres prophètes là-bas. Il y a des prophètes qui ont cherché à attirer les bénis Israël par la compréhension. Habakkuk est venu et a dit, d'après moi, la clé qui nous donne accès à toutes les mitzvot, c'est quoi? C'est la Emouna.
C'est un peu comme Verastirli Leolam, hein?
Oui, c'est la Emouna. Hein? Pourquoi la Emouna? Parce que Habakkuk est venu, il est arrivé dans une génération dans laquelle il a senti que la génération était faible. Et c'est pas comme les gens d'avant qui avaient un intellect très puissant et qui était capable, même s'il comprenait pas, de continuer, parce qu'il faut une grande force de caractère. Habakkuk, il est arrivé dans une génération qui était déjà assez tard dans les prophètes, et il a vu que, bon, il a compris que les gens étaient faibles, ils n'étaient plus comme avant. Ça veut dire que c'est des gens que quand ils comprennent pas, ils se font avoir tout de suite par le Yitzhara. Alors qu'est-ce que dit Habakkuk? Habakkuk, il leur a dit en vérité, toutes les mitzvot, on pourrait les résumer en une seule. La mitzvah de la Emouna. C'est exactement ce qu'on a expliqué dans le cours d'aujourd'hui, le cours de la semaine dernière. Qu'en vérité, le but de toute la Torah, c'est quoi? C'est de voir que Dieu est partout. Une fois que tu t'habitues à trouver Dieu partout, t'as compris toutes les mitzvot. Et toutes les mitzvot deviennent du gâteau pour toi. C'est ça en vérité le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas une mitzvah spécifique, les téfilines, la kashrout, le shabbat, etc. Ça, c'est les détails. On va toutes les faire. Mais la clé, la porte d'entrée pour accéder à toutes ces mitzvot, c'est quoi? C'est la Emouna. Combien de fois on a vu des gens qui étaient à côté de la plaque et qui étaient très très loin, et on a vu comment ils sont venus voir un tzaddik, ça les a réveillés. Après, du coup, ils ont dit, c'est bon, on accepte tout. Qu'est-ce qu'ils ont vu chez le tzaddik? Ils sont passés par un kippour, pac, ils ont tout fait. Qu'est-ce qu'ils ont vu chez le tzaddik? Qu'est-ce qu'ils ont vu ce kippour? Ils ont vu la Emouna. Quand tu vois la Emouna, quand on t'a attrapé par une partie du produit, tu as eu la Emouna, une fois que tu as la Emouna, tu as tout le reste. C'est ce que dit Habakkuk. Habakkuk dit que déjà sa génération, à plus forte raison de notre génération qui est très très faible, déjà sa génération, pour attraper les gens, il fallait éveiller leur Emouna. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a beaucoup insisté, justement, quand il allait dans les communautés dans lesquelles il y avait des fois des gens qui étaient un peu ignorants, etc. Il y avait des fois des gens qui venaient, des prédicateurs. Excusez-moi du terme, c'est le seul terme adéquat que j'ai trouvé. Des rabbins. Mais des prédicateurs. Que pour eux, la seule façon de faire avancer les gens, c'était en leur faisant peur. Et le Baal Shem Tov a dit, non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on ramène un juif. Parce que quand tu lui fais peur, ce qui lui fait peur aujourd'hui, lui fait plus peur demain. Donc ça veut dire que t'es toujours dans la surenchère, ça s'arrête jamais. C'est pas comme ça qu'on parle à un juif. Un juif, il faut parler à sa neshama. Il faut réveiller sa emouna.
Juste pour illustrer ce que tu dis, il y a mon cousin qui me rapporte juste ce Shabbat, il dit motif Shabbat chez moi. Il fréquente la Shabbat de nos gens.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au Beth Rabbat. Il arrive là-bas à nos gens, il les voit. Qui n'est pas du tout pratiquant. Il est devenu parce que sa fille est malade. Il lui demandait des barres. Il a dit, voilà, je vais faire quelque chose, je vais écrire, on va écrire au rabbi. C'est une histoire qui date même pas d'un mois. Donc il écrit et il dit, mais on ira la poster au Ed. Il dit, mais on ne peut pas plutôt aller dessus. Comme il a senti que ce juif, il avait envie d'aller, l'émissaire là-bas, qui est de nos jours, il est parti avec lui. Ils sont partis à voyage flash, ça fait 2-3 jours. Et ces personnes qui étaient loin de tout et tout, il a senti une force. Il est revenu là, il a expliqué devant, alors qu'il n'a pas exprimé ce Shabbat devant tout le monde, ce qu'il a ressenti, machin. Et tout, quelqu'un qui vient de nulle part et autre, il a, voilà.
Il est reparti,
déclic, machin, parce qu'il a, voilà, il sent finalement ce que tu veux dire. On peut pas, c'est irrationnel.
Irrationnel, c'est clair. Extraordinaire, on a un exemple concret.
Voilà.
Ça mérite un Echaïm, ça. Chaïm.
Il va falloir passer au whisky.
Le verre de ce barreau, très vite.
À bon entendeur.
Tu me l'avais dit, si on revient
par la peur.
Par la peur?
Ça marche pas.
On va dédier
le cours à Elul Nishmat. Nissim Ben Rivka. On va dédier le cours à Elul Nishmat, Nissim Ben Rivka. Après, bien sûr, il y en a plein d'exemples comme ça. Plein. Attention, ça ne va pas les exempter de faire les autres mitzvot.
Oui.
Mais on voit comment la Emouna, c'est la porte d'entrée. Aujourd'hui, la Emouna, c'est la porte d'entrée. on attrape un juif, tu réveilles sa émouna, après c'est la porte d'entrée. Tout le monde a l'émouna, ça n'existe pas.
C'est des séries.
Ça veut dire quoi, tu n'as pas
d'émouna? C'est ton héritage.
Ça veut dire que tu n'as pas de foi.
C'est un peu le principe d'Hilel.
C'est ce qu'on vient de dire. D'abord, l'émouna, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. C'est pas la même chose en français.
D'abord, on l'a tous.
Et la croyance, on a expliqué, on vient d'expliquer justement que c'est un héritage que nous avons tous. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait.
Si tu n'as pas conscience de ça,
elle est là, mais
par définition, tu es absent de ça.
Tu es absent. Mais il y aura forcément un événement dans la vie qui le réveillera.
C'est ça.
On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça peut être un kippour? Est-ce que ça peut être un tzadik? Est-ce que ça peut être les événements qui se passent en France, en Israël? On ne sait pas ce qui fait décoller quelqu'un. Ça, c'est pas prévisible. Il y a quelque chose. Ah oui, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut faire décoller quelqu'un. Et donc, il dit ici... Voilà ce que Habakkuk voulait dire. Habakkuk voulait dire que, finalement, aujourd'hui, de nos jours, tout tourne autour de la Emouna. Une fois que tu as compris la Emouna, tu as accès à tout. C'est exactement ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Le plus important, c'est de faire un effort de voir Dieu partout. Une fois que tu as la Emouna, tu as accès à toutes les mitzvot. Kelomar, ça veut dire, on va lire dans les mots. Je suis à la page 96, je pense, hein, voilà. Keilu Einam Rak Mitzvah Achat. C'est comme si que toutes les mitzvot, toutes les 613 mitzvot, n'étaient en vérité qu'une seule mitzvah. Hi ha'emuna levada, qui est la emuna, qui a liédé ha'emuna levada, yavo le kiyum kol atarag mitzvot, car grâce à l'emuna, à elle seule, on arrivera à accomplir toutes les 613 mitzvot. Ça veut dire que l'emuna et les mitzvot, c'est pas deux éléments distincts. L'emuna et les mitzvot, c'est un élément. Grâce à l'emuna, je fais les mitzvot. Vous comprenez que une fois que tu as l'emuna, c'est beaucoup plus facile de faire les mitzvot. Parce que, on va donner un exemple. Une fois que, si par exemple quelqu'un, tu n'as pas confiance en lui, tu ne sais pas qui c'est. D'accord? Il te dit, fais ci, va faire ci, fais ci, va faire ça. Bon, au début, tu écoutes parce que tu veux respecter, etc. Vraiment, tu dis, mais attends, il me prend la tête celui-là. Qu'est-ce qu'il me prend la tête? Non, j'ai mon programme, moi. Il dit, attends, je te donne un ordre, va me chercher ci, va me chercher ça. Mais pourquoi je l'écoute celui-là? Si tu lui fais pas confiance, t'as pas besoin d'écouter. Mais dès l'instant où tu lui fais confiance, que tu sais que c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, et que ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Même si c'est difficile, tu vas exécuter. Et même si c'est le millième ordre qu'il t'a donné, tu vas écouter. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est quoi? C'est avoir confiance. On sait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de parler aujourd'hui dans les informations, la confiance, est-ce que la confiance est remontée, est-ce qu'on ne sait pas remonter, etc. C'est le plus dur, ça. L'indice de confiance, etc. C'est le plus dur. Une fois que tu as la confiance, tu as tout qui marche. Quand il n'y a pas la confiance, ça marche pas. La emouna, c'est la croyance. C'est la même chose. C'est croire en Akadosh Baruch Hu. Habakkuk te dit, il faut travailler sur la emouna des gens. Une fois qu'une personne a la emouna, une fois qu'une personne a la croyance en Akadosh Baruch Hu, il fera tout ce que Akadosh Baruch Hu demande. Non, mais justement.
C'est pas on s'est endormi.
Alors, il y a des mitzvot pour réveiller ça. Par exemple, on sait que, il y a des campagnes. Par exemple, le rabbi a lancé la campagne des tefilines. La campagne de la mezouza, la campagne du shabbat, la campagne de la kashrut. Il y a certaines mitzvot qui ont un pouvoir particulier pour réveiller la neshama. Et on l'a vu. C'est pas des choses de théorie, c'est des choses qu'on a vues sur le terrain. Combien de gens on a vu qui ont fait teshuva parce qu'ils ont une fois les tefilines et ça fait quelque chose en eux. Une fois qu'on a ouvert la porte, après une fois que la porte est entrée, c'est bon, le plus difficile c'est de réveiller la emouna. Pour illustrer ça, pour montrer le fait que tout dépend de la emouna, le Rav Mendel Futterfass, qui était le Mashpia, ça veut dire le responsable, on va appeler ça le responsable religieux de la yeshiva de Kfar Chabad, il venait de Russie.
De Russie.
Et en Russie, il avait été emprisonné pendant près de 10 ans, en Sibérie et à côté aussi, parce qu'il diffusait la Torah. Vous savez qu'à l'époque, celui qui fondait des écoles juives et qui diffusait la Torah était contre-révolutionnaire. Donc c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans sa vie. Il a raconté, il a dit que des fois, quand il était en prison là-bas en Sibérie, bon, les soldats essayaient de s'occuper. Maintenant, les soldats, c'était pas les imbéciles, hein, c'était très souvent des gens, au contraire, qui étaient particulièrement intelligents, et comme ils dérangeaient le pouvoir, d'accord, l'establishment, donc du coup, on les internait là-bas en Sibérie. Et bon, en général, on les faisait travailler, mais il y avait des fois où on les laissait un peu se reposer. Donc quand on les laissait se reposer, ils allaient dans la cour, et chacun, il essayait d'amuser les autres. Et il a raconté, Ravanel Futterfass, il dit, lui, il analysait tout, lui. Il a raconté, il a dit, une fois, il y a une personne qui est venue nous voir, un des prisonniers, qui a dit, vous savez, moi je suis trapéziste. Trapéziste, bon, c'est-à-dire qu'il sait, il s'est monté, marché sur une corde, etc., avec un vélo, un truc comme ça, bon. Et, alors bon, on a fait avec les moyens de bord, hein, quoi? fut une ambiance, mais aussi un travail. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, bah, écoutez, voilà, avec le mot du bois, voilà ce qu'on peut faire. On va prendre une corde. Ils ont attaché une corde d'une bâtisse à l'autre bâtisse, ils ont bien attaché. Et il leur a dit, vous allez voir, je vais marcher. C'est une petite corde, une toute petite corde, mais qui est solide. Je vais marcher dessus, et c'était très très long. Et vous allez voir, je vais arriver jusqu'au bout. Très très haut. Et là, il était là, etc. Il avance. Et il va jusqu'au bout. Bon, les gens, ils l'applaudissent, allez, retour, bon, vous connaissez. Et quand il redescend, le ramène Flutterface, qui analyse tout, il va le voir, il dit, dites-moi, c'est quoi votre secret? Comment vous faites pour aller jusqu'au bout? Parce qu'il y a des gens qui essayent, tu vois, ils essayent un peu, hein, ils reviennent. Lui, il avance. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mon secret, c'est la chose suivante. Une fois que je commence à marcher, je regarde pas en bas.
Je regarde pas en haut.
Je regarde pas à droite. Je regarde pas à gauche. Je regarde uniquement le point où je dois arriver. Ça, vous pourrez remarquer chaque fois tous les funambules et les trapézistes, tout ça, etc. Regardez leurs yeux. Leurs yeux ne quittent pas l'objectif. Ça veut dire que, exactement ce qu'on a expliqué ici, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de se dire, hein, je dois arriver quelque part et j'ai confiance que là-bas il y a quelque chose. Si tu as confiance et que tu es focalisé, on peut te demander de faire 613 pas, tu les feras. Parce que tu vois où tu dois aller. Le plus difficile, c'est d'avoir la Emouna, de se dire, je peux le faire. Ça, c'est le plus difficile. Une fois que tu crois que tu peux le faire, tu peux y aller, tu regardes, tu vas réussir. Il y a un qui a raconté cette histoire sur le rabbi. On raconte que le rabbi, lorsqu'il était petit, à la cour de récréation, vous savez, les enfants, ils aiment bien monter sur les arbres. Et une fois, bon, le rabbi était plutôt dans ses livres, etc. Mais à la cour de récréation, mais une fois, les enfants, ils montaient. Il y a un enfant, je crois, qui a taquiné un peu le rabbi, qui a dit, ouais, tu ne sais pas monter. Il a dit, ah bon? Il a posé les livres. Il est monté, il est arrivé en haut de l'arbre. Alors, quand sa mère est revenue, elle a dit à tout le monde, vous savez, votre fils, il est monté en haut de l'arbre, etc. Et ça, en général, les gosses, ils n'arrivent pas, ils te montent un petit peu, etc. Regarde, ils ont peur de redescendre. Ah, j'ai peur, encore redescendre. Alors, la mère du rabbi, quand elle est venue, elle a dit, mais comment tu as fait? Il a dit, parce que je passe pas la tête. Tant que je suis pas arrivé en haut, je passe pas la tête. Je sais pas ce qu'il y a en bas, moi, je connais pas en bas, moi, je connais en haut. Tant que je suis pas arrivé en haut, je passe pas la tête. Hein? Oui, c'est pas un problème, ça.
C'est ça, il se fixe
le plus difficile, c'est de vaincre sa propre peur. Et d'avoir la Emouna, de croire que je peux le faire, et de croire que j'ai quelque chose de plus fort que moi qui va m'aider à le faire. Je peux réussir, je peux le faire.
Si vous ne croyez pas, hein, commencez dimanche. Tendez encore. Non,
prenez une bonne assurance vie. Voilà.
On va faire jeudi soir après le biche.
Exactement. Après le biche, voilà, exactement. Ce sera, ouais, exactement.
Alors, ça veut dire que ce que je vous montrais par ici, c'est que non seulement que quand on a la Emouna nous aide à accomplir toutes les mitzvot avec une kavana, mais plus que ça, la Emouna m'aide également à surmonter les obstacles qui se tiennent sur ma route. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que aujourd'hui, on est une génération où on a besoin beaucoup de réfléchir. Et on se pose des questions, mais comment faisaient les générations d'avant, les générations de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents? C'est des gens qui réfléchissaient pas beaucoup. C'est des gens qui travaillaient toutes les journées, ils n'avaient pas de vacances, d'accord? Ils faisaient. Et comment ils faisaient? Comment ils arrivaient? Ils avaient la Emouna. Ils avaient une force. Ils avaient la force de la Emouna. C'est que pour eux, quand on leur disait quelque chose, qu'on leur disait, c'était comme si que Dieu leur avait dit maintenant. Il faut l'admettre.
Mais pas de doute.
Ils avaient une Emouna. Et quand quelqu'un n'a pas de doute, tu peux lui demander ce que tu veux, il le fera. Et il le fera de bon cœur, il le fera avec la Simra, et il surmontera les obstacles qui viennent sur sa route. Ces gens-là avaient une endurance extraordinaire que je ne sais pas si on aurait aujourd'hui. Il faut savoir ça. Les gens de la génération, de deux, trois générations, des gens qui, voilà, des gens comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont une endurance, peut-être formant aux arrière-grands-parents, ils ont une endurance qu'on n'a pas. Et pourtant, c'est des gens qui ne savaient pas forcément lire. Ils ne savaient pas forcément lire. Ouais. Ou tout juste, ils savaient lire.
Oui, justement, c'est à cause de ça, ils ont mis toute leur force alors, sur ça, et nous...
Voilà, alors, j'ai compris. D'un autre côté, nous, comme M. Benita, je renie pas ça, comme nous, on est une génération qui s'approche de Mashiach, et qu'un des signes de Mashiach, c'est que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, donc Dieu a fait que dans notre génération, on a besoin de comprendre. Et c'est pour ça qu'on veut comprendre, on vient à des cours, on veut comprendre, on est curieux. C'est-à-dire, on n'accepte pas les choses telles quelles. Je dis pas, bon, on a dit, c'est écrit. Bon, alors, je veux comprendre ce qui est écrit. Et c'est bien qu'on soit comme ça, parce que ça prouve qu'on s'approche de Mashiach. Que la majorité du peuple cherche à comprendre. Le monde entier cherche à comprendre. On peut pas aujourd'hui raconter aux gens, croyez-moi sur parole. C'est compliqué de croire sur parole. On croit personne sur parole aujourd'hui. On veut des preuves. On veut du résultat sur le terrain. Ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que finalement, ça ne change pas aujourd'hui encore. La porte d'accès qui nous permet d'accéder à toutes les mitzvot, c'est la Emouna. On doit travailler notre Emouna. Alors, soit on l'a de façon innée, soit on va se travailler intérieurement pour trouver Dieu partout autour de nous.
Il faut la développer.
D'accord ? Il faut la développer. Une fois que j'ai réussi à développer la Emouna autour de moi, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pour ça que, si vous avez encore des enfants en bas âge, même pas qu'en bas âge d'ailleurs, mais à cet âge-là, ils écoutent encore, c'est important, hein, c'est important de leur raconter des histoires. Des histoires de tzadikim. Vous n'avez pas idée comment, quand on raconte à un enfant des histoires de tzadikim, ça cultive leur émouna. Un enfant, il doit savoir que quand il a un problème, il y a des tzadikim. Il y a des tzadikim, même sans forcément raconter, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour raconter des histoires. Il y en a qui peuvent parler pendant des heures, il y en a qui peuvent parler. La question n'est pas combien de temps on parle. Le fait même que quelqu'un, par exemple, il est parti à une tombe d'un tzadik, il va revenir, d'accord ? Qu'est-ce qu'il va raconter à ses enfants ? Il ne va pas lui dire « j'étais à New York, j'étais au Maroc ». Il va lui raconter, tu sais, j'étais dans la tombe d'un tzaddik. Et dans la tombe du tzaddik, j'ai ressenti quelque chose. Tu vas lui raconter ce que tu as ressenti. N'aie pas peur, les enfants, ils comprennent très très bien ce genre de choses. Et l'enfant, il va comprendre, il ressent la Emouna. Il va comprendre que qu'est-ce qui a fait vibrer son père, c'est une tombe. Il va, une tombe, rapport. Ouais, c'est demain une PlayStation, un truc comme ça, qu'est-ce que tu sors la tombe, lui, maintenant. Il va comprendre que chez un tzaddik. D'accord? Tombe Raider, alors. Il va comprendre que chez un tzaddik, on peut avoir une puissance de Emouna extraordinaire. C'est pour ça que Habakkuk a dit, Ve tzaddik be Emunato yichye. Un tzaddik vivra avec sa Emouna. Vivra. Ça veut dire que la Emouna nous fait vivre. La Emouna donne la vitalité à ce qu'on fait. On peut avoir un judaïsme creux, un judaïsme qui est vide, qui est froid. Qu'est-ce qui rend notre judaïsme vivant? C'est la Emouna. Quand on a la Emouna, quand on a la croyance, et ça se cultive. Regardez, qu'est-ce qu'on fait par exemple, tout le travail qu'on fait par exemple dans le mois d'Eloul. Le mois d'Eloul, on va se travailler pour arriver jusqu'au jour de Kippour. Qu'est-ce qu'on sent le jour de Kippour? Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on sent qu'on a compris quelque chose? Ça, c'est ce qu'on pense? Non. On ne cherche pas à comprendre. On n'est pas dans la compréhension. On sent qu'il y a une Emouna. On sent qu'il y a une proximité avec Kadosh Baruch Hu. Si tu as la Emouna, tu as tout compris, tu as tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il dit ici. Da'inu, ça veut dire Kshayye Libo. Sas Vesamer, son cœur sera joyeux. Beemunato, dans la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Beyichud Hashem betachlit asimcha keilu lo aita zo rek mitzvah al zo levada. Vehi levada tachlit breto vriat kol alamot. Admor Hazakim dit c'est très simple. Quand un juif il vient te voir, il te dit tu sais, je suis angoissé. Ah, 613 mitzvot, c'est beaucoup. On a une religion compliquée, j'arrive pas à le faire. Il dit oublie les mitzvot. Concentre-toi sur une mitzvah. Travaille-toi sur la Emouna. Pose-toi la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu comprends qu'il y a un Dieu, que ce Dieu gère ta vie? Et tu vas voir que si tu as compris ça, automatiquement, progressivement, grâce à ça, et la simra que tu auras, la chance que tu auras, tu vas voir comment tu vas t'en sortir très très rapidement, beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Are, bekoar vechayut nafsho besimra rabazo, avec l'énergie de son âme, qui allait nafsho le mala mala alcool amonim qui yum kolatara mizot mibaitu mechutz, on va s'élever au-delà de tous ceux qui nous empêchent d'accomplir la mitzvot. Et ça, je vais faire une petite parenthèse avec Pourim. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Pourim? Dans l'histoire de Pourim.
Oui.
Dans l'histoire de Pourim, on voit que Akadosh Baruch Hu, il s'est caché. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un décret. Et on allait vraiment y passer. Ça veut dire que logiquement parlant, il y avait un décret qui avait été envoyé, qui était très compliqué à enlever. C'était très compliqué. Normalement, on devait tous y passer. Il n'y avait pas où se sauver. C'est pas comme dans d'autres décrets où on pouvait se sauver. Là, il n'y a pas où se sauver parce que Achashverosh régnait sur toutes les contrées du monde, en tout cas qui étaient habitées par des juifs. Et donc, il n'y avait pas où partir. On ne pouvait pas se sauver. D'accord? On ne connaissait pas à l'époque Christophe Colomb et tout ça. On ne connaissait pas ce genre. Donc, on était bloqué. Donc, on n'avait pas où aller. Très bien. Alors, qu'est-ce que font les juifs dans ce cas-là? Très compliqué. Les juifs, ils habitent à Shushan. Donc il y a plusieurs techniques. Soit on va dire, bon, dans ce cas-là, on capitule. On va capituler à Shushan, on va capituler à la culture de Shushan, on va devenir comme des habitants, comme des Perses, quoi.
Shushanites.
Comme des Shushanites, d'accord. On va devenir comme eux, on va s'habiller comme eux, on va manger comme eux, on va dormir comme eux. Et bon, tant pis, qu'est-ce que tu veux, l'homme Israël, c'est terminé. D'accord. On va plus penser comme ça. Qu'est-ce que font les Bnei Israël? Et là, on voit que vous savez que sur le premier, ils durent plus d'un an. Qu'est-ce qui se passe? Pendant plus d'un an, les choses ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on essaie de faire avancer les choses, mais les choses n'avancent pas. Ça n'avance pas. C'est-à-dire que plus on avance, et plus le décret est en train de s'enfoncer. À quel moment il y a un déclic dans la Megillah ? D'ailleurs, je vous donne une petite technique. Vous remarquerez que quand on va lire la Megillah Bezrat Hashem, il y a un moment au sixième chapitre, Balaïla Haouna de Dachnat Amelech, que là, je vais élever la voix. Parce que c'est là en vérité que l'histoire va changer. Mais je vais expliquer tout de suite. Ça veut dire que pendant près d'un an, l'histoire ne bouge pas. C'est-à-dire Dieu attend quelque chose de nous qu'on ne lui donne pas. Et donc l'histoire ne bouge pas. On essaye de faire des choses, de parler au roi, etc., de donner de l'argent. Et on essaye même de faire tout ce que tu veux, de donner nos maisons, notre argent, etc. Mais les choses n'avancent pas. Et là, à un moment, bah, là et là où il y a un histoire dans lequel les Bnei Israël, ils ont des clics, ils disent, mais attends, le problème, il est en nous. On doit réveiller notre Emouna. Qu'est-ce que fait Mordechai ? Mordechai, ce soir-là, il rassemble 22 000 enfants. Avec nous, les adultes, il n'a pas réussi. Donc il a dit, on va essayer avec les enfants. Eux, les enfants, ils ont une vraie Emouna. Nous, on n'a pas une vraie Emouna, nous. Nous, on pense à la suite. D'accord ? Les enfants, ils sont vraiment sincères. Ils savent vivre le moment. Alors, il rassemble 22 000 enfants. Et ces 22 000 enfants, ils ont une Emouna. Ils ont dit, comme ça, ils ont proclamé, ils ont dit, on ne bouge pas de la place tant que le décret n'est pas annulé. Maintenant, nous aussi, on l'avait fait. On a dit, bon, on fait un peu de chantage à Kadosh Baruch Hu, mais bon, quand tu dis ça, tu penses déjà au lit qui t'attend dans 2-3 heures. On ne bouge pas. Mais un enfant, il n'est pas comme ça. Un enfant, quand il dit qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas. Un enfant, quand il fait une shkemba, quand il est têtu, une shkemba, c'est un scandale en anglais. Alors. D'accord ? En écossais. Alors, un enfant, il ne bouge pas. Et c'est là que, il y a 10 chapitres dans la Megillah. C'est là que Balaïla Haou, au sixième chapitre, là, Balaïla Haou n'a de Dash Natamelech. Une fois que les enfants se sont rassemblés et qu'ils ont prouvé qu'ils ont une Emouna inébranlable et qu'ils ne comptent pas partir de cette place de Shushan, tant que la place centrale de Shushan, tant que le décret n'est pas annulé, là on nous dit Balaïla Haou n'a de Dash Natamelech. Cette nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. Alors, la suite de l'histoire, au sens littéral, c'est quoi dans le chat ? C'est que le roi Sahasverosh, il n'arrivait pas à dormir, alors il a demandé qu'on lui amène le livre des archives, on lui a amené les archives, et on a commencé à le lire, on lui a raconté une histoire qui s'était passée un peu plus tôt dans le chapitre 3 de la Megillah, à la fin, d'accord ? Donc on lui a raconté l'histoire, comment, ce qui s'était passé, c'est que Mordechai avait sauvé la vie du roi, et il pose la question, il dit, mais comment on a récompensé Mordechai? On lui dit, dans les archives, il n'y a pas écrit qu'on l'a récompensé. Alors il dit, il faut qu'on le récompense, comment pourrait-on le récompenser? Alors il entend, il dit, mais il y a du bruit, qui c'est qui vient rentrer dans la cour? On dit, mais c'est Aman qui vient rentrer. Alors Aman, il appelle Aman, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? S'il y a quelqu'un que je voudrais honorer, d'après toi, qu'est-ce que je pourrais lui faire? Et Aman, cet imbécile, il dit, certainement que celui qu'on veut honorer, c'est moi. Donc comme il pense que celui qu'on veut honorer, c'est lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il dit, quelqu'un qu'on veut honorer, il faudrait prendre un cheval, le carrosse du roi, et on va courir devant lui, et on va dire, ainsi fera-t-on à celui que le roi veut honorer, etc. Enfin, il lui fait le scénario qu'il aurait aimé qu'on lui fasse, quoi. Et là, Ahasverosh lui dit, ça tombe bien, eh ben ce que tu as dit, va le faire à Mordechai. Bon, et là, à partir de là, l'histoire a déjà changé. Ça veut dire que le décret n'a pas encore été annulé, mais l'histoire a déjà changé. Vous savez, je dis souvent que quand on analyse les guerres, il y a l'instant de la victoire, ça c'est clair. Mais après, ceux qui vont analyser la guerre après, ils vont voir que dans la guerre, il y a eu un moment de déclic.
De tournant.
Ça veut dire que, et des fois, il faut un recul de plusieurs décennies ou plusieurs siècles pour le voir, ça. On voit que, ça veut dire qu'il y a eu une guerre, d'accord ? Et à un moment, il y a un déclic, mais au moment du déclic, on ne se rend pas compte forcément. Et c'est après qu'on se rend compte que ce qui a amené la victoire, c'est le déclic qu'il y a eu à ce moment-là. Eh ben, ça, on peut le dire clairement en histoire de la Megillah. Et c'est pour ça qu'on élèvera la voix. Parce que c'est là que ça se passe. Balaïla Haou. Cette nuit-là. Lorsque le roi n'arrive pas à dormir, c'est là que, en vérité, la Emouna des Bnei Israël a fait que les choses ont commencé à bouger. Et là, c'est l'histoire de quelques jours. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Aman n'est pas bien. Et juste après, c'est une histoire de quelques jours. Ensuite, la reine Esther dit, je vais organiser un festin pour Ahasverosh. Ahasverosh vient avec Aman. Et là, la reine Esther va dire, oui, je fais partie d'un peuple, etc. C'est-à-dire qu'après, c'est une histoire de quelques heures, quelques jours. C'est terminé.
Éloge de l'insomnie.
C'est?
Éloge de
l'insomnie. Alors, justement, l'insomnie. La Gemara a dit que, Balaïla Haou la Dash Natameler, dans la Megillah, chaque fois qu'on dit le roi, c'est une image à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi le roi c'est une image à Kadosh Baruch Hu? Parce que Ahasverosh, ça vient de Acharit Vereshit Shelo. Dans le mot Achashverosh, il y a trois mots. Il est composé de trois mots. Le début et la fin sont à lui. Or, à qui appartient le début et la fin? Qui a le début et la fin de l'histoire? Qui a le début et la fin du monde? Qui a le monde d'une extrémité à l'autre? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, en fait, en exil, Akadosh Baruch Hu, il dort. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dort. C'est-à-dire quand une personne... Quelle est la différence entre une personne qui dort et une personne qui est debout? Une personne qui est debout, c'est une personne que... Il y a une différence entre sa tête et ses pieds. C'est-à-dire une personne qui est debout, comme moi maintenant, là, je suis debout, enfin assis, ou c'est-à-dire, en tout cas, je suis réveillé. Je ne peux pas mettre au même niveau ma tête et mes pieds. Parce que je sais que ma tête est plus importante que mes pieds. Ça veut dire que quand je suis réveillé, il y a une hiérarchie dans mon corps. Une hiérarchie qui est respectée. Il y a la tête, il y a les mains, il y a les pieds, chacun est à sa place. Et une personne qui est tombée sur la tête, ben il est tombé sur la tête. Hein, on est bien d'accord. Normalement, on doit avoir la tête sur les pieds. C'est le cas de le dire. D'accord? Bon. Là, j'ai la tête sur les pieds. Alors, la tête sur les pieds. Les pieds sur terre, en tout cas. Donc, ça, c'est la normale des choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais dormir? Lorsque je vais dormir, même si j'ai un coussin, je mets la tête au même niveau que les pieds. Ça veut dire qu'il n'y a plus de hiérarchie. Tout le monde est au même niveau. Ce qui n'est pas normal. Comment tu peux mettre tout le monde au même niveau? Comment tout le monde est au même niveau? Alors en fait, ce qui est expliqué dans un Mahamar de Rabbi précédent, il dit comme ça. Il dit, le Ham Israël, on est à la tête. Et il y en a d'autres qui sont aux pieds. La normale des choses aurait voulu que le Ham Israël, on devrait être à la tête, on devrait être honoré comme la tête. Est-ce que viendrait un instant au pied lui dire, bah, tu sais quoi, c'est moi la tête. Et toi, tu veux rien. Mais non, parce qu'il sait que c'est la tête qui dirige. Ça, c'est valable quand on est réveillé. Quand on est réveillé, effectivement, quand on est en forme, quand on est dans tous ses états, quand on a toute sa conscience, là, effectivement, la tête est à sa place, le pied est à sa place. Et là, les juifs sont à leur place, ils sont respectés. Mais lorsqu'on est en galoute, à Kadosh Baruch Hu, il dit, je dors. C'est pas qu'il dort. Il fait comme si qu'il dort. Dans le sens qu'il met tout le monde au même niveau. Ça veut dire qu'on voit plus la différence d'un juif et un non-juif. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est le pied, qui dit, mais moi, c'est moi la tête. Et finalement, il est au même niveau, pourquoi tu veux pas qu'il soit pas la tête? Alors, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dormait, Kavirol. Pendant tout le début de la Megillah jusqu'au chapitre 6, Akadosh Baruch Hu, il dort. Qu'est-ce qui a réveillé Akadosh Baruch Hu? Cette nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. C'est qui le roi? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le roi n'arrivait pas à dormir? Qu'est-ce qui a réveillé le roi? Qu'est-ce qui a réveillé le roi de son sommeil profond dans lequel il était? Ce qui a réveillé le roi dans son sommeil profond, c'est la Emouna qu'ont eu les enfants d'Israël. Lorsque les Bnei Israël ont eu la Emouna, et une Emouna sincère, pas une Emouna, bon, je dis comme ça, mais je le pense pas, une vraie Emouna. Lorsqu'ils ont eu cette Emouna, c'est là qu'à ce moment-là, cette nuit, le roi s'est réveillé. Et lorsque Kadosh Baruch Hu s'est réveillé, après c'est terminé. Bah, Yomer, il a dit, la vie est de se faire azichonot. Le roi a dit, donnez-moi les archives. C'est quoi les archives? Kadosh Baruch Hu dit, ah, mais je me rappelle ceux-là, ils sont à la tête. Je les connais. Ils ont les patriarches, ils ont Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont les Emouna. Ça y est, c'est fini. Après, une fois que le roi s'est réveillé, il se rappelle tout de suite. Dans un rêve, tout est possible. Une chose et son contraire sont possibles. Mais quand on se réveille, on remet tout le monde à sa place. Vous savez que l'exil est comparé à un rêve. Dans un rêve, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Il n'y a pas de question, M. Binita.
Il n'y a pas de logique.
Dans un rêve, on peut rêver d'une chose et son contraire en même temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, par exemple. Imaginez, par exemple, qu'il y a une personne qui a une maison qui est à Paris. Et il a une autre maison en Israël. Maintenant, il a un mobilier spécifique en France et un autre mobilier en Israël. Il peut rêver qu'il se trouve dans sa maison en France avec le mobilier israélien. Et ça ne le dérange pas dans son rêve. Ou bien il peut rêver qu'il est en France et que tout le monde autour de lui, les Français lui parlent en hébreu. Tu vois. Et dans le rêve, ça passe. Ils rêvent, ils disent, mais attends, pourquoi ils parlent en hébreu? On est en France, là. C'est-à-dire, dans un rêve, tu peux avoir une chose et son contraire ou deux choses complètement incompatibles qui sont en même temps. C'est exactement. Hein?
Ce que dit Freud.
Je ne sais pas ce que dit Freud, certainement.
Oui, enfin... quand il est bourré. Hein.
Oui. Bien sûr, c'est interprète. Alors, donc, c'est ce que dit justement. C'est donc, pas Freud. Revenons à notre sujet.
Sauf que lui, il dit.
Ça, c'est terrible.
Ça fait. Yalla. Allez, on continue. Allez.
Alors, en tout cas, Balaïla Haou, la Nedash Natameler. Cette nuit, le roi n'arrive pas à dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu se réveille. Et lorsque Akadosh Baruch Hu se réveille, là c'est fini, on est sorti de Galout. C'est pour ça, hein, avant d'avancer dans la suite, je voudrais dire aussi un message d'encouragement. Lorsque des fois on se dit, on n'arrête pas de dire, ma chère qui va arriver, ma chère qui va arriver. Les gens disent, mais comment c'est possible? Comment tu crois qu'il va arriver, il va tout changer le monde? Regarde la galère dans laquelle on est. Est-ce qu'on est plus en galère que ce qu'était le juif à l'époque de Pourim? Pire que ça, on ne l'est pas. À l'époque de Pourim, ils avaient un contrat sur leur tête, ils savaient que le 13 Adar, tout le monde devait mourir. Et ils savaient. Et on ne remettait pas en cause la puissance militaire d'Achashverosh. Personne ne pouvait remettre en cause ce qu'ils disaient Achashverosh. Ça veut dire qu'on savait qu'on allait tous mourir. Est-ce que ça peut être pire que ça? Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'histoire peut traîner comme ça pendant un an, peut traîner comme ça pendant un certain temps. Et dès qu'il y a un déclic, dès qu'il y a un tournant dans l'histoire, après une histoire de quelques heures, quelques jours, tout est réglé. L'histoire est terminée, tac, 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 on se rend compte, on dit, bah oui, finalement, il y avait une reine, etc. Et finalement, tout se règle. Ça veut dire que vous croyez que pendant un an, ils n'ont pas pensé qu'il y avait une reine? Vous savez qui était Mordechai? Mordechai était ministre. Imaginez si vous avez dans le gouvernement, d'accord, le gouvernement français, un ministre rabbin. Ça ne dérange personne. Il devait être vachement intégré. Non, mais c'est sérieux, on devait être vachement intégré. C'est extraordinaire. Ministre. D'accord. Et ça ne dérangeait personne. Ça veut dire qu'on était vraiment intégré.
Oui, alors justement, raison de plus, comment se fait-il qu'avec cette intégration, il y avait toute une population qui était disponible, qui travaillait, qui participait à l'économie du pays,
oui.
Et Ahasveros accepte qu'on tue toute cette population, il va se priver de toute cette population, un pan de l'économie de son pays, il va aller en l'air. Et
ah, mais ce Benita, une fois qu'à Kadosh Baruch
Hu. Il est aveuglé par Haman.
Exactement, il est aveuglé par Haman. Vous voulez dire, c'est exactement ce qui se passait avec les Allemands. Vous savez qu'en Allemagne, il y avait des Juifs qui étaient maires.
Je sais.
Vous savez ça?
Oui, je sais.
Il y avait des maires, il y avait des gens qui étaient très très bien implantés. Comment il a pu arriver, il marchait mauvais iro, à nous traiter comme des animaux? Et c'est comme ça, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné le pouvoir d'aveugler, il aveugle comme Haman. Haman, il a aveuglé Achashverosh.
Oui, sauf
que... Vous imaginez que Haman, il a poussé Achashverosh à tuer sa femme. Ouais. La Megillah commence comme ça, je vois. Fait un festin, et Haman dit à Achashverosh, il faut que tu tues ta femme. Il en faut du toupé. Imaginez que Rimeroth dit, il faut que tu tues ta femme, et c'est lui que tu tues. Ça veut dire qu'il a un pouvoir extraordinaire, ce Haman.
Mais ça veut dire aussi.
Il a un pouvoir de persuasion.
Oui, ça peut aussi vouloir dire que Achashverosh, il n'était pas normal.
Un peu des deux, certainement. Ah,
pour accepter ça, c'est qu'il n'est pas normal. Hein.
Mais Monsieur Benita, en vérité, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui amène tout ça. C'est un jeu qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Le cache-cache. Il se cache. Vous savez, c'est quoi l'origine du mot Esther? Esther, ça vient de l'origine Seter, caché. Dieu se cache.
Tu sais que c'est l'emblème de Starbucks Café?
De
Starbucks Café.
Oui. Esther,
l'emblème, c'est la reine Esther.
Ah oui?
Pourquoi?
Oui.
C'est la reine Esther, parce que les patrons, c'est des feux. Et c'est la reine
Esther. Ah, ça fait un emblème de la reine Esther. Il doit y avoir une grand-mère ou un truc comme ça qui s'appelait Esther. C'est des juifs, Starbucks? C'est des juifs?
Sans juifs, peut-être.
Ah, oui. Tu sais qui?
Starbucks, café.
Starbucks.
Sûrement. Pour boire un café au lait.
Ah, si, c'est cachère. Il y a beaucoup de cafés qui sont cachères.
Tu regarderas.
Non, mais vous pouvez
y aller. Non, mais ça dépend.
C'est
la reine.
Ah, comme dit notre ami Balamou, si le prix du café est cher, c'est que ça devait être un juif.
C'est vrai que c'est pas donné. Hein, c'est un vrai miracle.
Et il a rajouté mes classiques. Il se débrouillera avec moi, la monsieur.
Alors. Ça, c'est pour nous montrer l'importance de la Emouna. Comment finalement tout dépend de la Emouna. Et d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse aussi avec Hanouka. Il s'est passé exactement la même chose à Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? À Hanouka, on avait une armée qui était beaucoup plus forte que nous. Militairement, ils étaient beaucoup plus forts que nous, c'est-à-dire qu'ils nous écrasaient. On a eu une poignée de personnes, les Maccabim, qui sont réveillées. D'accord? Ah ouais, on montre le logo de, voilà. Starbucks Café, Coffee. Starbucks Coffee.
Ah, ça y est, tu l'as.
Il y a marqué Esther?
Ah, c'est non, ça.
Mais
c'est
il n'est pas écrit, mais c'est une reine.
Starbucks Café.
Pas mal.
Vous avez Marie, non? Bon.
Alors, qu'est-ce qui se passe à Hanouka? C'est la même chose. À Hanouka, il se passe la même chose. On voit les Bnei Israël. Ils sont devant une armée qui est beaucoup plus forte qu'eux. Et ils n'ont aucune chance de gagner. Militairement, ils n'ont aucune chance. Vous savez, des fois, il y a des combats dans lesquels tu te lances, tu te dis, bon, c'est pas gagné, mais t'as au moins une chance. Une chance sur 100, une chance sur 1000. Mais là, ils n'avaient aucune chance de gagner. Ils étaient minoritaires. Ils ne savaient pas se battre. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien pour gagner. Ils n'avaient rien pour eux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? T'as une poignée de gens. T'as Yehuda Maccabi et ses enfants. Qui va s'accompagner de quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Des gens qui vont être, quand on lit les Midrashim, des gens qui vont être déterminés. Qui vont avoir la Emouna. Vous savez ce que Yehuda Maccabi a gravé sur son épée? Il a gravé Mi Kamocha Ba'elim Hashem. C'est de là qu'on l'appelle Maccabi. Mi Kamocha Ba'elim Hashem. Qui est, comme toi, parmi les dieux Hashem? Parmi les dieux, ça veut dire, eux, ils disent leurs dieux, etc. Mais qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire que sur quoi il a basé Yehuda Maccabi sa force de se battre? Il n'a pas dit, moi je suis plus fort, moi j'ai tout compris, ils n'ont rien compris. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi il l'a basé? Il l'a basé sur la Emouna qu'il avait en Kadosh Baruch Hu. La Emouna. Mi Kamocha Ba'elim Hashem. Initial de Maccabi. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils étaient déterminés par la foi. Voilà ce que dit Habakkuk. Habakkuk te dit, alors qu'on était à la génération de Moshe Rabbeinu, les gens arrivaient à faire les choses sans faire appel à l'Emouna. Ils arrivaient à faire les choses par soumission. Ça, c'est un niveau. Mais déjà, à l'époque de Habakkuk, il dit, on n'est plus à ce niveau-là, nous. Nous, aujourd'hui, il faut réveiller l'Emouna. Si on n'a pas l'Emouna, on ne peut pas avancer.
C'est comme Moshe contre Amalek.
Il faut toujours réveiller l'Emouna. Si on n'avait pas l'Emouna, ça ne marche pas. Et vous savez que... Il faut quelqu'un de déterminé. Et ça, c'est la force des prophètes. Je vous raconte encore un autre exemple. Vous savez, on dit que le prophète Jérémie, il s'est rendu compte, à un moment, que les Juifs n'étudient plus la Torah. Ils n'étudient plus la Torah. Alors, il a fait un sondage, pourquoi ils n'étudient plus la Torah? Et les gens lui disaient, bah, écoutez, on peut pas, on travaille. Alors, il leur a dit, mais vous savez, bon, il faut travailler, mais il faut étudier. Il dit, mais on peut pas, il faut travailler. Et si on travaille pas, on n'aura pas connu nos enfants. Donc, il a vu qu'il y avait un problème d'Emouna. Il y a un problème d'Emouna, c'est-à-dire que la croyance, la confiance n'y est pas. On se dit que si je ne veux pas travailler, je n'aurai pas de quoi manger. Donc l'indice de confiance était bas. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Jérémie? Pour la seule fois dans l'histoire, il a demandé à ce qu'on ouvre tous les rideaux qui donnent depuis l'entrée du temple jusqu'au Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y avait pas mal de choses là-bas à l'intérieur. Il y avait les tables de la loi, et il y avait aussi une fiole de la manne. Vous savez que la manne, normalement, la manne qu'on a eue quand on était dans le désert, elle tenait que la journée. Et il ne fallait pas la laisser la nuit. Il fallait tout manger la journée parce que ce qu'on laissait la nuit, ça pourrissait. Mais, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, prends une fiole et mets-la de côté, ça pourra servir. La Mishmeret. Et on l'a gardée. Aujourd'hui, elle existe encore. Ah oui. Parce qu'elle est indestructible. Elle est quelque part sous terre. Elle a été cachée à la fin de l'époque du premier temple. Elle est indestructible comme les tables de la loi qui sont quelque part dans le monde. Parce que sinon, le monde ne tiendrait pas. Et donc, le prophète Jérémie, mais à cette époque-là, donc c'était pas encore sorti, c'était pas encore sous terre, le prophète Jérémie, il a demandé qu'on sorte la manne. On leur a montré la manne. Il a montré aux enfants d'Israël, il leur a dit, vous voyez ça? Ça, c'est des gens qui étaient dans le désert. Et Dieu leur a envoyé à manger. Ils ont pas eu besoin de soucier comment la parnassa va descendre. Alors c'est vrai qu'on est dans une autre génération. Parce que maintenant, il faut travailler, que si on travaille pas, bon, ben, ça viendra pas. Mais il faut pas oublier que Dieu, il peut s'occuper de vous. Et que si Dieu vous a demandé d'étudier la Torah, c'est que tu peux étudier la Torah. Si Dieu te demandait de faire ton Shabbat, même si t'es dans un mois dans lequel t'as Shabbat fête, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de toi. Regardez, on a eu cette année un Tishri qui était Shabbat fête. On est à la rue maintenant? Et bien, comment on va faire? T'as non seulement les fêtes, c'est un mois qui coûte cher. En plus, il arrive après le mois d'août. Et en plus, tu travailles pas. C'est la totale, ça. Après les vacances, un mois qui coûte doublement cher, et en plus tu travailles pas. On est ma boule ou quoi? On va au Hachem, on est là? Hein? Bah, au Hachem, on est là? Tu payes les vacances, tu payes les tisseries? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qu'a fait le prophète Jérémie, encore une fois? Il a vu que les Bnei Israël, qu'est-ce qui les dérangeait? Qu'est-ce qui les empêchait d'avancer? C'était un manque de Emouna. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré quelque chose qui rappelle la Emouna. Et ça, les tzadikim, dans chaque génération, ils vont voir par rapport à qu'est-ce qu'il faut pour réveiller l'émouna des juifs. Qu'est-ce qu'il faut pour réveiller l'émouna des juifs? Par exemple, on sait que, chez le rabbi, il a encouragé à faire la campagne des mitzvot. Et vous savez certainement que dans les dernières années, le rabbi, il distribuait le dollar. Vous avez déjà entendu parler certainement. Alors, le but de distribuer ce dollar, c'est quoi? C'était en général le dimanche. C'était que chacun y recevait un dollar. Et il devait normalement le donner à la tzedaka. Comme t'as pas envie de le donner à la tzedaka, parce que c'est un dollar que le rabbi t'a donné. Donc on devait donner un dollar équivalent à la tzedaka. Donc c'est une invitation à la tzedaka. Mais vous comprenez que, enfin, mis à part le fait que c'est une shlichut la tzedaka, ça veut dire que le rabbi nous donne l'occasion de donner la tzedaka grâce à ce mérite. Mis à part ça, c'est une possibilité pour nous, pour aujourd'hui, d'avoir des objets qui ont été chez un tzadik. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'un tzadik, il a que ça à faire, à passer son temps à distribuer les dollars? Franchement, je crois qu'il n'a pas mieux à faire que ça dans sa chambre, dans son bureau, à étudier la Torah, etc. Seulement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'âme Israël a besoin de l'émouna. Et qu'il y a des gens, comme nous aujourd'hui, c'est mon avis, pour avoir l'émouna, ils ont besoin d'avoir des objets qui ont appartenu à un tzadik. Quand tu as un objet, quand tu as un dollar, quand tu as quelque chose que tu sais qui appartient à un tzadik, que tu sais que c'est ça part, que le tzadik qui t'a donné, c'est une doucha particulière. Et ça peut faire travailler l'émouna. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont un peu, qui se moquent un peu de ça. Ils vont dire, oui, aujourd'hui, on va te vendre un mouchoir qui appartient à Baba Salé. Ils vont dire, ouais, que ça change, etc. Il y a une force. Non, c'est pas limite du tout. Pas du tout. La Gemara en parle déjà. La Gemara a dit que les sages, lorsqu'ils avaient une question de halakha qu'ils n'arrivaient pas à répondre, ils se mettaient à côté du bâton, même de l'âne, de Rabbi Pinchas Ben Yair. Parce que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, comme il était toujours à côté de Rabbi Pinchas Ben Yair lorsqu'il faisait l'enseignement de Torah, donc quelque part, il s'est imprégné de la Kedusha. Et il sentait que quand ils avaient le bâton de Rabbi Pinchas Ben Yair ou son âne à côté, il se sentait imprégné et il y avait une Kedusha qui les imprégnait, ils ne savaient pas d'où ça venait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a une Kedusha qui se vécu dans les objets. Nous, on n'a pas les yeux pour le voir.
Mais c'est éduqué, tu le dis. Et quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui prend l'objet comme un objet, je te dis, c'est un peu limite.
Un peu limite, pourquoi?
Un peu limite.
Bah, tu sais qu'une personne qui est pas, une personne qui est pas religieuse et qui doit faire son Shabbat, pour lui, tu dis, c'est un peu limite ce que tu fais. Il dit, mais il est fou, quoi. Il ferme son affaire, le Shabbat, il marche pas, il est pas au boulot, pourquoi il est fou, quoi? Il prend pour un fou. Et il a raison. Enfin, pas pour moi.
Non, mais toi, tu
regardes le dollar pendant le gala, comment il est parti.
Celui qui écrit le Gemara, il sait que c'est un objet. Il sait que c'est parce que l'âne, il s'est imprégné la Kedusha. Mais quelqu'un qui est
éloigné de ça,
qui est éloigné, bon. Qui avait besoin d'un objet pour se rapprocher, d'accord, ok, mais...
On ne sait pas ce qui va faire débarrer quelqu'un. On ne sait pas. On ne sait pas. Chacun, il va avoir son... Mais il est clair que tenir dans la main un objet qui appartient à un sadique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si je donne la possibilité de prier dans un sidour à toi ou un sidour que le Baal Shem Tov va utiliser.
Ah, c'est pas pareil.
Ça va te faire quelque chose. Quand même.
Moi, je peux te dire quelque chose. Je peux te dire quelque chose. Avant de rentrer pour mon mariage, j'étais chez le rabbi et le dernier mincha, je l'ai fait dans le sidour du rabbi. Parce que à l'époque, le rabbi il donnait toujours son sidour. Bon, maintenant, on n'a pas l'occasion de le recevoir directement du rabbi, mais il y a toujours le secrétaire du rabbi qui le donne au Khatanim. Donc, normalement, c'est le jour du mariage. Bon, moi, comme je ne me mariais pas à New York, donc le jour du mariage n'était pas à New York, mais on faisait mincha avec. Et tu l'as, tu fais mincha dans une pièce, tu fais mincha avec. Je peux te dire, c'est un sidour que le rabbi a utilisé pendant des années.
Mais vous le rendez, d'accord, ou vous le gardez?
Heureusement.
Non, parce que le dollar, on ne le rendait pas.
Non.
C'est pas pareil. Il y a une boutique en sortant.
Je peux vous dire, ça fait quelque chose quand vous priez un sidour comme ça. C'est quelque chose de prier dans un sidour dans lequel tu sais qu'il y a un tzélique qui a prié pendant des dizaines d'années. Et que c'est dans ce sidour qu'il a fait passer les tfilotes que tout le monde lui donnait, il les a fait passer vers Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il est clair que la matière véhicule une énergie. Il n'y a pas de question dessus.
Si après on se dit non, finalement c'était un faux. Ah bon? Pourtant je
dis non, il a ressenti.
On pourra toujours se moquer. Non. Du gros, ça veut dire.
Non, même si on te dit c'est pas. Peu, c'est-à-dire c'est que finalement, c'est lui qui dit. Ah, mais finalement, c'est.
Je vais te dire. Imagine-toi par exemple que je te vends le mouchoir. Je lui dis tiens, ça c'est un mouchoir qui a appartenu à un grand sadique. Peu importe, je veux pas de nom pour me moquer d'un sadique. Et que je le vends et je dis celui qui prend ce mouchoir, c'est une. Tout celui qui touche ce mouchoir, c'est une ségoula pour se marier dans l'année. D'accord? Et qu'il y a 100 personnes qui vont le toucher. Il y aura bien statistiquement une personne qui va le toucher qui va se marier dans l'année. Elle va dire, ah, t'as vu, ça a marché. Bon, ça a marché, ça peut marcher pour les autres. Elle va dire, ah, non, mais ça veut rien dire, ça marche statistiquement. On peut toujours se moquer.
Et qu'un jour aux enchères, tous les trucs qui passent,
il faut y croire.
Il faut y croire.
C'est comme le fil rouge.
Faut pas être
meilleur. Ça, c'est.
Le fil rouge, ça c'est.
Ça, ça vaut rien, ça.
C'est l'égoïsme et le rigour, encore.
Le fil rouge, ouais.
C'est une belle invention juive, ça. C'est une belle
invention. Elle se vend bien.
Ça se vend bien, ça. Quoi. Ça se vend 5, 10 euros. Il y en a qui vendent 10 euros, alors. 10 euros un fil rouge. T'as trouvé un truc.
C'est génial.
Et en plus, t'en achètes pas un. Et t'en achètes plusieurs au cas où il le perd.
C'est génial.
C'est génial. Ça, c'est une idée magnifique. Une idée de génie. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est pas bon. C'est une idée de génie, ça. Ah, vous savez, après, il y a des gens qui s'amusent avec ça. Il y a des gens qui sont amusés. Bon, ça s'est arrêté, heureusement, grâce à Dieu. Mais ça fait quelques années, ça fait une dizaine d'années, il y avait des petits malins qui commençaient à s'amuser à découvrir des nouvelles tombes de Tzadikim. Vous savez, quand vous allez à Tzfat ou dans le Nord, en Israël, il y a plein de petits...
Plein de tombes.
Il y a des gens qui commençaient à faire des... à trouver des nouvelles tombes. Qui est fausse, bien sûr. Dire ici, c'est une tombe. Et les gens, des fois, ils sont naïfs, ils y allaient. Bon, bah, au Hachem, aujourd'hui, ça a été standardisé par le gouvernement. Il y a un ministère aujourd'hui en Israël qui s'occupe de ça. Pas seulement des affaires religieuses, ministère des antiquités qui s'occupe de ça.
Parce que même dans les. Pas que dans les tombes.
Oui, même dans les fouilles archéologiques, il y avait des charlatans, bien sûr.
Exactement comme c'était à l'époque.
Le mot auquel vous pensez, c'est relique. Les choses qu'on transmet comme ça, les objets.
Oui, mais les reliques, c'est un peu...
Oui,
ça fait vieillot.
Il parlait d'autres religions.
Ah. Oui. Alors, donc, ça, c'est pour nous montrer ce qu'on a expliqué, que le tzaddik, ve tzaddik be emunato yichye. Le tzaddik vit avec sa emuna, c'est qui le tzaddik? C'est chacun de nous. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qui nous fait vivre? Quel est le moteur principal d'un juif aujourd'hui? C'est la emuna. Ça, c'est le rôle d'un tzaddik. Quand on parle d'un tzaddik, c'est le rôle de Mordechai. Alors, Rabbi explique qu'on voit que dans chaque génération, le rôle du tzaddik de la génération, il peut en avoir plusieurs. Le rôle du tzaddik de la génération, c'est quoi? C'est d'éveiller la emouna d'Ebné Israël. Après, chaque tzaddik va utiliser les méthodes qu'il pense être adaptées à la génération pour réveiller la emouna. Par exemple, Moshe Rabbeinu, quelle méthode il utilisait pour réveiller la emouna d'Ebné Israël? Moshe Rabbeinu, la méthode qu'il utilisait pour réveiller la emouna, c'est la compréhension. Parce que la génération de Moshe Rabbeinu, c'était des gens extrêmement intelligents qui devaient tout comprendre. Donc Moshe Rabbeinu, il n'allait pas les attirer par des chansons. Moshe Rabbeinu, il attirait les Bnei Israël par des divrei Torah. Et c'est comme ça qu'on les attirait. Parce que la génération du désert est un Dordéa. Donc Dordéa, ça veut dire la génération de la connaissance. Donc comment on va les attraper? Par des divrei Torah. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu les attrapait. Après, progressivement, quand on rentre en Israël, Yehoshua, comment il va attraper les Bnei Israël? De quoi ils ont besoin les Bnei Israël quand ils rentrent en Israël? Quand ils rentrent en Israël, les enfants d'Israël, ils vont étudier la Torah, ils ont moins de temps qu'avant. Il leur faut quelqu'un qui va être un dirigeant, qui va leur montrer comment on construit un pays. Qu'est-ce que va faire Yehoshua? C'est un tzaddik, Yehoshua, c'est un tzaddik de la génération. Il va prendre de son temps pour leur expliquer comment on construit un pays. Pour leur faire des règles extraordinaires qu'on voit dans la Gemara, les règles d'un pays. Comment on fait des règles, et comment on respecte les territoires, et comment on respecte les halakhot des jardins, et des cours d'eau, etc. Des halakhot détaillés. Pourquoi il a fait ça, Yehoshua? Parce qu'il a senti que c'était le besoin de la génération, et que c'est comme ça qu'il allait les réveiller. Donc, c'est ce qu'il a fait. Après, tu avances, le roi Salomon, etc. Chacun, il a vu quel était le besoin de sa génération, et par rapport à ce qu'il pensait être le besoin de la génération, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Là, on arrive à Mordechai. Puisque le Zohar nous dit que Mordechai dans sa génération équivaut à Moshe dans sa génération. En d'autres termes, c'était le Moshe de sa génération. Okay? Qu'est-ce que fait Mordechai? Mordechai, son but numéro 1, c'est d'éveiller l'Emouna d'Ebné Israël. Alors, Mickaël, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Emouna, on l'a tous en nous. On l'a en nous, la Emouna. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas. Mais des fois, la Emouna, elle est un peu cachée. J'amène souvent l'exemple du voleur. Du voleur qui, avant de commettre son larcin, il dit « Dieu, je t'en prie, aide-moi ». Ça veut dire qu'il a une Emouna, mais sa Emouna n'est pas développée. Le rôle d'un tzaddik, c'est de l'aider à la développer. Moïse va le faire par la compréhension. Yehoshua va le faire en les aidant à construire la terre d'Israël. Mordechai, comment il va éveiller la Emouna des Bnei Israël?
Les 24 enfants.
Il va éveiller la Emouna des Bnei Israël en leur disant, il faut éveiller Messirut Nefesh. L'abnégation. Ça veut dire qu'il a réussi, vous pouvez l'appeler radical, c'est pas grave. Il a réussi à éduquer 22 000 enfants et rassembler 22 000 enfants autour de lui, qui ont dit, on ne bougera pas d'ici, on restera avec toi jusqu'à la mort. On bougera pas d'ici, même si on nous tire dessus, on bougera pas d'ici tant que le décret n'est pas annulé. Aujourd'hui, on les aurait appelés des radicaux aujourd'hui. On les aurait fichés S, d'accord? Et plus que ça, d'accord? Hein? S plus maintenant.
Voilà, ouais. Vous avez la télé là, vous hein? Écoutez la télé.
On les aurait fichés M, d'accord? D'accord? Mais pourtant, Mordechai, il a senti que le besoin de cette génération était d'éveiller la Emouna d'Ebné Israël au travers de l'abnégation. C'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. D'accord? Et dans chaque génération, le rôle des tzadikim de la génération a été d'éveiller la Emouna d'Ebné Israël. Alors aujourd'hui, on sait. Lorsque, par exemple, c'était, on a vu la génération précédente, les tzaddikim de la génération précédente, ils ont éveillé la Emouna des Bnei Israël en leur expliquant qu'ils allaient passer par des périodes très difficiles et qu'ils allaient faire besoin de faire preuve de beaucoup d'abnégation. Et ça a été la génération de nos parents, qui était avant nous. Notre génération aujourd'hui, quel est notre challenge? Qu'est-ce qu'il faut pour réveiller notre Emouna? Le Rabbi nous l'a dit. Et tout le monde le dit. Aujourd'hui, le challenge aujourd'hui, c'est de combattre l'assimilation. De ramener les gens, de leur expliquer, de les ramener vers la Torah. Ça, c'est le challenge aujourd'hui. Comment on le fait? On le fait par les techniques que nous ont données les tzadikim. Le Rabbi nous a donné 10 campagnes. Il nous a dit, par exemple, que, je parle par exemple de Pourim. Il te dit que, il est important de s'assurer que tout juif écoute la Megillah. Il expliquait. Il dit, un juif qui n'a pas écouté la Megillah n'est pas le même qu'un juif qui a écouté la Megillah. Même si le juif, il fait les 400 coups, même s'il ne met pas les tefilines, le fait qu'il a écouté la Megillah, ça fait quelque chose dans son neshama. Va comprendre, d'où tu sais. C'est pour ça que le rabbi, il a dit, même s'il y a un juif qui est perdu dans une île, il faudrait lui envoyer 9 juifs pour lui lire la Megillah. Parce que c'est mieux de le lire à 10. Si on peut pas en lire à 1, mais c'est mieux de le lire à 10. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que le rabbi nous a montré, et c'est pas que le rabbi, d'accord? Il nous a expliqué qu'aujourd'hui, notre challenge aujourd'hui, c'est d'éveiller la Emouna des Bnei Israël en les aidant à faire des mitzvot, en les poussant à faire un Shabbat, en les poussant à mettre des tefillin, en les poussant à faire la mitzvah. Et après, laisse la mitzvah faire son travail. Michael, il arrête pas de se poser la question, il dit, mais comment on va faire? Il est pas croyant. C'est pas ton problème. T'inquiète pas, le cœur d'un juif, il est réveillé. Mais il faut juste le décrasser un petit peu. Mets-lui la mitzvah, mets-lui le médicament, et laisse le médicament faire son travail. Le médicament, après, il décrase tout seul. C'est tête chercheuse, le médicament. Tu mets le filin, tête chercheuse, pfff, il va retrouver, il va te faire sauter. Combien d'histoires on a eu comme ça? Donc, il faut, nous, en ce qui nous concerne, notre travail, c'est de faire un effort de réveiller les monnaies des Bnei Israël. Et ça, c'est le plus important. Alors, concrètement, comme ça, on va garder quelque chose de concret aujourd'hui. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, notre challenge à nous, c'est s'assurer que chaque personne de notre famille vienne pour écouter la Megillah. Chaque personne. Si vous avez, par exemple, un cousin, un ami, un membre de la famille, vous savez qu'il ne va pas venir pour la Megillah, et il faut l'encourager à venir à la Megillah. Trouvez l'excuse que vous voulez. Racontez-lui les salades que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'il vienne. C'est comme un enfant qui veut pas un médicament.
Mais il faut qu'il vienne d'accord?
Comme un enfant qui veut pas un médicament. Mets-lui du coca, mets-lui ce qu'il veut. Juste qu'il prenne le médicament. Voilà, qu'il prenne. Après, c'est bon. Après, le médicament, il fera son travail. Ah, lui, il croit qu'il a bu du coca, je lui ai donné un médicament. Raconte-lui des salades, raconte-lui ta vie, raconte-lui ce que tu veux. Ce qui compte, c'est qu'il faut qu'il vienne pour écouter la Megillah. Quand pareil, la même chose. Tu veux mettre des tefillines à quelqu'un, etc. Quelque chose. Regardez, par exemple, hier. Il y a eu les enfants de l'orchestre de Niguni. Vous savez que tous les mercredis, il y a ici des enfants qui apprennent la musique. Et ils ont fait hier, donc c'est des enfants qui, à 6 mois, ils ne savaient même pas toucher un instrument de musique. Et là, hier, ils ont joué une musique de pourri, très bien jouée, etc., bien harmonie, etc. Et leur instructeur, il n'a pas mis les tefillines. Il n'a jamais mis les tefillines.
Il n'a jamais.
Il ne se rappelle pas s'ils avaient la bar mitzvah, peut-être non, a priori, bon, voilà. D'accord? Et quelqu'un m'a mis la puce à l'oreille, il m'a dit, va lui proposer de mettre les tefillines, et il les a pas mises. Je lui ai mis les tefillines. On a mis les tefillines, etc. Et là, bon, il a pas refusé, il l'a accepté tout de suite, etc. C'est l'ambiance de pourri, la musique, etc. et tout. Et après, il est venu me raconter, il a dit qu'il a senti que je lui ai fait quelque chose. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Juste, je mets les tefillines, je vais répéter chemin d'Israël. 3 minutes plus tard, tout était terminé. J'ai enlevé les tefillines, et je suis reparti, je vais m'occuper des autres invités. Il est venu voir après, il m'a dit, ça m'a fait quelque chose. Hier, c'est pas si hier, ici, là, à votre abonne. Hein? Non, sérieusement. Ça lui fait quelque chose. Comment tu peux expliquer ça? Au début, il dit, oui, bon, pourquoi pas. Au début, il fait ça, tu vois, pour faire plaisir, parce que, bon, le rabbin, il demande, comment ça marche? Il y a quelque chose. C'est pas moi qui va décider, ce qui va le réveiller. Et après, une fois qu'il est réveillé, je lui ai demandé où il habitait, etc., Et je le refourgue le Beit Rabat qui est à côté.
40 ans, une petite.
C'est bien conseillé.
Demain, il va faire ça
pour lui. Hein? Oui, au prochain. Hein?
C'est quoi ça?
Il y a déjà une barbe de 3 jours.
Oui, ça y est. D'accord? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Il fallait lui dire que ça fait moins mal que la prépina. La semaine prochaine, c'est la prépina.
J'ai pas demandé à la prépina.
Ça a l'air pas mal. Je l'avais senti, on s'en est pas senti.
Est-ce que vous connaissez l'histoire des deux juifs qui font naufrage sur une île? Alors, ils sont désolés, perdus. Il y en a qui dit à l'autre, qu'est-ce que j'étais bien samedi à la synagogue. Quoi? Tu étais à la synagogue? Est-ce que t'as fait un don? Je te casse pas la tête, ils vont te retrouver.
Je l'ai entendu sur le fisc, celle-là.
Ah bon. Ça marche mieux.
Ouais. Ça marche mieux. Voilà. Rabotai, la Emouna, tout tient sur la Emouna aujourd'hui. On va continuer son prochain rendez-vous.
Tout tient sur la Emouna.
Il y a la Emouna qui m'ont le rechercher. Il y a la Emouna qui m'ont le rechercher. Je vais aller voir ma mère à l'hôpital. Il était là. J'avais mes tefilines sur moi. Je les avais prises de chez moi. Je me suis dit, au cas où, on sait jamais, je prends mes tefilines. À ce moment-là, je prenais pas mes tefilines. Maintenant, tout le temps, j'ai mes tefilines sur moi. Au cas où, si je croise un juif, je peux lui mettre les tefilines s'il a besoin. Et je vais voir ma mère. Je lui dis bonjour. Mon frère, je lui dis pas bonjour. Je lui mets les tefilines.
Je viens de toucher les bananes.
C'est pas très bien. Voilà. Je sais. On m'a dit qu'il fallait pas faire la mitzvah.
Voilà, je pense qu'elle est visible, c'est bien cela.
Mais deux jours après, il revient voir ma mère. Je suis là. Il me dit, est-ce que t'as des tefilines? Et maintenant, à chaque fois qu'il me voit, il me demande de lui mettre les tefilines.
L'âme Israël est réveillée.
Ma chère, il faut se préparer.